Nous allons en ce dimanche 16 février 1986 vous apporter notre dernier exposé sur ce thème « Comprends-tu ce que tu lis ?» Nous vous avons demandé de relire le texte où se trouve ce passage, cette question, chapitre 8 du livre des Actes, et ensuite nous avons pensé qu'il était bon de lire le chapitre 53 d'Ésaïe, puisque c'est de ce passage qu'il est question dans la conversion de l'eunuque d'Éthiopie. Mais je vous l'ai dit ce matin, en lisant le chapitre 52, je me suis senti poussé à vous demander d'en faire aussi la lecture. Et ici, je vais vous dire pourquoi. Parce que j'ai eu le sentiment que c'était certainement une des semaines les plus difficiles que j'ai dû vivre ici. Je ne m'étonne pas, le Seigneur m'avait averti qu'il ne serait pas facile de vous présenter ces paraboles du chapitre 13 de Matthieu. Pour quelle raison? Parce que la plupart d'entre vous, vous aviez d'autres idées sur ces textes. J'étais bien persuadé que d'après l'enseignement populaire, l'enseignement général qui est donné dans la plupart des églises, plusieurs peut-être se sentiraient heurtés et ne comprendraient pas pourquoi ce ne sont pas leurs pensées qui pourraient être la bonne pensée. Je n'ai pas voulu prétendre que moi j'avais la bonne pensée, mais je voudrais simplement vous encourager, même si vous n'êtes pas du tout convaincu, à faire une relecture de la Bible. Parce que c'est à cause d'une fausse compréhension des Écritures, de l'Ancien Testament en particulier, que les Juifs du temps du Seigneur ne l'ont pas reconnu et l'ont rejeté. Parce qu'ils lisaient les Écritures, mais ils s'étaient fait une image tout à fait à eux de ce Messie qui devait venir, et ils étaient sûrs que les choses devaient se passer comme cela. Ils s'appuyaient même sur plusieurs versets qui disaient que le Messie ne pouvait pas mourir. Et quand ils ont vu cet être si fragile, humilié et brisé à la croix, eh bien, ils ont pensé que ce Jésus, qui avait pourtant été un grand guérisseur, mais avait perdu tout pouvoir, et que certainement il était puni et frappé par Dieu. Et c'est pourquoi je crois qu'il était bon que vous entendiez peut-être une autre version au sujet de ces paraboles. Version qui n'est pas la mienne, mais qui me paraît concorder avec tout l'enseignement de l'Écriture. Maintenant, je vous lis depuis le chapitre 52, le premier verset. Réveille-toi, réveille-toi, revêt ta parure, Sion. Revêt tes habits de fête, Jérusalem, ville sainte. Vous ne voyez pas encore cela, mais pourtant, ce sont des choses qui vont arriver. Cela vous est encore caché, mais Jérusalem reste le trésor du Seigneur. Car il n'entrera plus chez toi ni incirconcis, ni impur. Secoue ta poussière, lève-toi, mets-toi sur ton séant Jérusalem, détache les liens de ton cou, captive de Sion. Car ainsi dit l'Éternel, c'est gratuitement que vous avez été vendus, et ce n'est pas à prix d'argent que vous avez été racheté. Bien, prenez ce verset, soulignez-le bien. Ce n'est pas à prix d'argent que vous avez été racheté. Est-ce que nous pouvons nous-mêmes nous racheter à prix d'argent? Est-ce que réellement ce que nous avons vu dans la parabole est une possibilité pour nous d'acquérir notre salut en vendant tout ce que nous avons pour pouvoir posséder cette vie éternelle? Déjà l'Ancien Testament nous montre que nous ne pouvons pas être achetés à prix d'argent, pas plus qu'Israël pouvait être acheté à prix d'argent. Verset 4. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Jadis mon peuple descendit en Égypte pour y séjourner, puis l'Assyrien l'opprima sans cause. Et maintenant, qu'ai-je à faire, dit l'Éternel, quand mon peuple a été gratuitement enlevé? Ces tyrans poussent des cris, dit l'Éternel, et toute la durée du jour, mon nom est outragé. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom, c'est pourquoi il saura en ce jour que c'est moi qui parle, me voici. Et comme vous avez le droit de vous appliquer aussi les paroles de l'Ancien Testament, je demande au Seigneur que chaque âme ici puisse être conscient que même si elle a été jusqu'à présent sous le joug de l'ennemi, de Satan, sous le joug de ses habitudes coupables, de ses péchés, et si cette âme pense que certainement elle va retomber parce qu'elle n'a pas de force, bien nous voudrions vous dire ce matin, qui que vous soyez, puissiez-vous recevoir dans votre cœur cette parole du Seigneur. Lui vous dit qu'il interviendra. Lui vous dit qu'il est là. Il parle. Il vous dit, me voici. Moi, j'accomplirai ce que vous n'êtes pas capable de faire. En vous, le Seigneur se montrera puissant. Jusqu'ici, vous avez peut-être essayé de marcher avec vos propres forces. Laissez le Seigneur maintenant intervenir pour vous, car il y va de sa gloire. Et le verset 7 nous fait rejoindre Philippe. Vous savez qui était ce Philippe? J'espère que vous avez maintenant un peu de mémoire et que le Saint-Esprit deviendra de plus en plus votre mémoire. Philippe avait dû quitter Jérusalem à cause de quoi? À cause d'une persécution. La persécution qui était survenue au temps d'Étienne. Et qu'a-t-il fait? Eh bien, devant quitter sa patrie, il est allé en Samarie. Et qu'est-ce qu'il a apporté? Des mauvaises nouvelles? Non. La persécution n'a pas empêché Philippe d'aller plus loin. Et il a apporté de bonnes nouvelles à qui? Aux païens de Samarie, aux Samaritains. Et on peut dire que Philippe avait de beaux pieds. Verset 7, qu'ils sont beaux. Sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix. Voilà ce qu'a fait Philippe en Samarie. Et ses pieds, eh bien, ont continué leur course jusqu'à ce chemin désert de Jérusalem à Gaza pour y rencontrer un Éthiopien. C'est jusqu'au bout du monde que cet évangile devait être prêché, non seulement à Jérusalem, en Samarie, mais jusqu'aux extrémités de la terre. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix. Et Philippe a été employé pour publier la paix à l'eunuque d'Éthiopie. Il lui a apporté de bonnes nouvelles, il lui a publié le salut. De celui qui dit à Sion, ton Dieu règne, la voix de tes sentinelles retentit. Elles élèvent la voix, elles poussent ensemble des cris d'allégresse. Oui, mes bien-aimés, que vous puissiez devenir, parce que vous êtes imprégnés de la parole, de ces sentinelles qui attendent quoi? Le jour de la colère de Dieu? Non, qui attendent le matin, qui attendent ce matin son nuage qui est promis, qui attendent la venue de leur Seigneur. mais que nous soyons des sentinelles vigilantes qui savent à quoi en est la nuit et qui entendent dire le matin vient, mais évidemment aussi la nuit pour le monde, pour ceux qui sont dans l'incrédulité. Si le matin vient pour les croyants, la nuit, hélas, vient pour le monde. La colère de Dieu s'amasse sur le monde incrédule, qui refuse la grâce, et quand on refuse la grâce, on n'a plus qu'à attendre le jugement. Éclatez ensemble en cris de joie, verset 9, ruine de Jérusalem. Même si vous vous sentez une ruine aujourd'hui, éclatez en cris de joie. Vous vous sentez une ruine, je me sens une ruine, eh bien je ne veux pas regarder à la ruine. Je veux croire éperdument à cette parole du Seigneur. Car l'Éternel console son peuple. Il rachète Israël. Est-ce que vous connaissez la consolation du Seigneur? Prenez cette parole pour vous. Est-ce que vous faites partie de son peuple? Si vous faites partie de son peuple, si vous avez pu dire oui au Seigneur, eh bien, prenez de lui cette consolation. Et sachez que c'est lui qui rachète. C'est lui qui rachète. C'est pas vous qui vous rachetez. C'est lui qui rachète. Donc, vous voyez, quand on lit une page de l'Écriture, eh bien, on la trouve tout à fait en harmonie avec les autres, en tout cas avec celles que nous avons étudiées hier. Alors laissons-nous corriger par le Seigneur. L'Éternel découvre le bras de sa sainteté. Le bras du Seigneur signifie sa force. Il va manifester son bras. Il va manifester sa puissance. Alors, sur qui allez-vous vous appuyer? Sur quoi allez-vous vous appuyer? Sur votre propre force? Vous chancellerez. Mais vous vous appuierez sur son bras. Lui va vous découvrir le bras de sa sainteté, sa puissance merveilleuse. Et au sein d'un monde d'impureté, d'iniquité, vous pourrez cheminer, appuyer sur le bras de sa sainteté. Et c'est parce qu'il est saint que nous, nous serons saints. C'est parce qu'il a aimé l'Église, qu'il a donné sa vie pour elle, qu'il l'a rachetée au prix de son sang, qu'il veut la perfectionner aussi et nous sanctifier de jour en jour. Et il le fera aux yeux de toutes les nations, et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. Eh bien, là, dans l'histoire de l'eunuque d'Éthiopie, lui aussi, qui venait, comme le dit l'Écriture, d'une façon un peu hyperbolique, eh bien, il a vu le salut de Dieu, lui qui venait des extrémités de la terre, comme il l'est dit de la reine de Sheba. Toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. Partez, partez, sortez de là, ne touchez rien d'impur, sortez du milieu d'elle, purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. Voilà que nous retrouvons justement cette séparation dont il a été question dans les textes que vous avez lus dans Timothée. Ne sortez pas avec précipitation, ne partez pas en fuyant, car l'Éternel ira devant vous. Il n'est pas question de fuir vous-même, il n'est pas question de prendre vous-même des décisions, il est question de vous attendre au Seigneur et de le suivre. Le Seigneur ira devant vous, car l'Éternel ira devant vous et le Dieu d'Israël fermera votre marche. Et j'ai pensé que c'était un merveilleux passage pour terminer cette retraite. L'Éternel ira devant vous, et puis l'arrière-garde, c'est lui aussi qui le sera. Alors, vous êtes placé entre le Seigneur qui est devant vous et le Seigneur qui est derrière vous. Quelle chose précieuse. Quelle sécurité. Il marche devant vous pour vous frayer la route, comme il l'est dit dans Ésaïe 45, « Moi j'irai devant toi, j'aplanirai les choses élevées, je briserai les barres de fer, je casserai les portes d'airain, et je te donnerai les trésors des ténèbres que tu ne vois pas encore, et les richesses des lieux cachés. » Il y a les trésors, il y a des richesses devant vous. Et puis, quant à l'arrière-garde, c'est le Seigneur lui-même qui le sera. L'Éternel fermera votre marche. Ou comme le dit un autre passage, la gloire de l'Éternel sera votre arrière-garde. Et qu'il en soit vraiment ainsi. La grâce devant vous, la gloire derrière vous. Cette protection glorieuse. Alors nous arrivons maintenant à cette partie du livre d'Ésaïe qui est certainement un sommet de l'Écriture sainte. Ce chapitre que probablement vous entendez souvent lire dans vos communautés et qui aiment à célébrer le repas du Seigneur et à replacer l'œuvre de Jésus-Christ au centre de leur culte, comme nous nous efforçons de le faire ce matin, entourant ces signes qui ont été institués par le Seigneur lui-même pour le temps de son absence. Dans la nuit où il fut livré, vous savez qu'il prit du pain et la coupe de vin et qu'il prononça ces paroles extraordinaires, « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est donné pour vous, puis buvez-en tous, ceci est mon sang qui est versé pour la rémission des péchés de plusieurs. » Eh bien, quand nous célébrons un tel repas, nous ne pensons plus à autre chose qu'à Jésus. C'est lui qui est devant nos yeux. Nous oublions toutes nos préoccupations et nous souvenons de l'amour dont il nous a aimés. Quelle est notre attitude? C'est l'attitude de l'adoration. Nous adorons. Nous ne pouvons pas comprendre la grandeur d'un tel amour. Nous ne nous y habituons pas. Alors, nous restons recueillis dans le silence et nous laissons le Saint-Esprit qui remplit nos cœurs de l'amour de Dieu. Nous laissons l'Esprit mettre sur notre langue des paroles de louange qui s'expriment ou par un cantique, ou par une lecture biblique, ou par quelques mots de prière, d'action, de grâce. Il y a des réunions de prière où nous intercédons, où nous supplions le Seigneur pour nos frères, pour nos sœurs, ou pour nos propres besoins, mais il y en a d'autres, et ce sont ces moments de culte où nous ne sommes pas là pour demander au Seigneur, mais pour lui apporter, notre reconnaissance. Avez-vous reçu quelque chose pendant cette fin de semaine, quelque chose venant non pas d'un homme, mais venant du Seigneur? Eh bien, exprimez-lui votre reconnaissance. Mais plus encore que dans cette fin de semaine, souvenez-vous de ce qu'il a accompli une fois pour toutes à la croix de Golgotha, au calvaire, pour vous racheter entièrement et pour que vous soyez couverts de son sang précieux. Afin que Dieu ne vous voie plus dans vos péchés, dans votre misère, mais uniquement dans les perfections du Christ ressuscité. Et j'aime à penser que ce matin, le Christ qui a tout souffert pour nous, qui a donné sa vie, qui a expié dans son corps, sur le bois, toutes nos fautes, tous nos péchés, qui a livré son âme en sacrifice, et bien maintenant ressuscité, devant Dieu le Père, eh bien, il se tient debout pour nous. Et Dieu ne nous voit plus qu'au travers des perfections de son Fils. Alors ne vous regardez pas vous-même, regardez le Seigneur. Et c'est en contemplant le Seigneur que vous pouvez voir ce que Dieu voit de vous. Ce que Dieu voit de vous, ce ne sont plus vos péchés, ni vos iniquités. Ce qu'il voit, ce sont les perfections du Christ. Vous avez été rendu agréable dans son bien-aimé. Et il vous voit dans son bien-aimé. Et c'est cela qu'il nous faut comprendre. Détournez vos yeux de vous-même. car votre chair ne va pas s'améliorer. Mais regardez le Seigneur, et par la puissance du Saint-Esprit, vous allez être transformés de gloire en gloire à son image. Ce sera l'œuvre du Saint-Esprit, ce ne sera pas le produit de vos efforts, parce qu'on se fatigue, on va un bout de chemin, puis on retombe. Mais si vous avez les yeux fixés sur Jésus, eh bien vous courrez la course. Oubliez vos fardeaux, rejetez vos fardeaux sur le Seigneur. Apprenez à confesser vos soucis, vos inquiétudes comme des péchés. C'est que de cette manière, je l'ai dit souvent, que je puis m'en débarrasser. Et le jour où je l'ai compris, c'était une véritable délivrance pour moi. Nos péchés, nous en sommes débarrassés quand nous les confessons au Seigneur et que nous les abandonnons. Et nos soucis, nos inquiétudes, nous en sommes libérés quand nous les apportons au Seigneur, comme des péchés, parce qu'il a dit, ne vous inquiétez de rien. Alors, si je m'inquiète, voilà que je suis en train de pécher. Alors, j'appelle mes soucis des péchés, et je les confesse au Seigneur. Seigneur, je demande donc de confiance en toi, pardonne-moi. Et nous savons qu'il pardonne tous nos doutes et qu'il est un Dieu secourable. Prenons maintenant ce merveilleux chapitre qui est écrit 700 ans avant que les choses ne se réalisent et qui a été pour l'eunuque d'Éthiopie le moyen de sa conversion et pour Philippe le moyen de l'amener au salut. C'est en partant d'une parole du texte que nous allons lire Philippe a annoncé le salut à cet eunuque d'Éthiopie. Voici verset 13. Ces versets 13 et suivants font partie, au fond, du chapitre 53. C'est le même morceau. Et on a pu constater qu'il y a dans ce morceau 5 strophes de 3 versets chacune. D'abord, vous avez le décret du Seigneur, le décret de Dieu. C'est Dieu qui parle, comme on le voit au psaume 2. Je raconterai le décret. Dieu a un décret. Au sujet de qui ? De son Fils. J'ai dit, c'est mon Fils. C'est le décret du psaume 2. Et c'est lui un jour qui règnera envers et contre tout. Voici mon serviteur prospérera. Il montera et s'élèvera. Il s'élèvera bien haut. Oui, il s'élèvera dans une gloire aussi haute que son abaissement a été profond. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi. Tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils des hommes. Est-ce que vous voyez de qui il est question? Car dans tout ce chapitre 53, il est question du même personnage. Alors, l'eunuque disait, il avait lu ces passages, mais de qui parle le prophète? De lui-même ou de quelqu'un d'autre? Qui est cet être qui a été pour plusieurs un sujet d'effroi? Et vous voyez que Ésaïe a une vision des choses qui vont venir. C'est ce qu'on appelle le passé prophétique. Il parle d'un événement futur, il en parle au passé. Il voit tellement nettement ce qui va arriver au Messie qu'il en parle comme d'une chose déjà passée. C'est une chose future, mais il en parle au passé, ce qu'on appelle le passé prophétique. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi. Quand est-ce qu'il a été ce sujet d'effroi? Quand on a pu voir sur la croix ce corps ensanglanté de Jésus qui avait été battu de verges, ce visage sur lequel on avait craché, ce visage qui était surmonté de cette couronne d'épines qui s'enfonçait dans son front. De sorte que, cloué sur la croix, quand le Seigneur voulait redresser sa tête, eh bien, les épines s'enfonçaient encore dans son crâne. Quelle que soit la position qu'il prenne, il était réellement défiguré par la souffrance. Ne pensez pas que parce qu'il était le Fils de Dieu qu'il ne souffrait pas. Ceux qui l'ont vu ont dit qu'il était défiguré par la souffrance. Et même avant la croix, on lui donnait déjà 50 ans. Et c'est ce que nous dit un passage de l'Écriture. On lui donnait environ 50 ans et il n'en avait combien ? Que 33, n'est-ce pas ? Il était en quelque sorte comme homme vieilli avant l'âge. Pour quelle raison ? Eh bien, parce qu'il avait, durant toute sa carrière, tout son ministère, il entrait en sympathie avec tous ceux qui souffraient. C'est ce que nous révèle le chapitre 8 de Matthieu, qui nous dit qu'une partie d'Ésaïe 53, Jésus l'a réalisée en allant de lieu en lieu, faisant du bien. C'est dans sa vie, en guérissant les malades, mais il prenait ses maladies sur lui. Il délivrait ceux qui étaient dans l'oppression de Satan. Mais il avait affaire avec toutes ces puissances qui, dès le commencement de son ministère, lui avaient été hostiles, contraires. Vous savez comment Satan avait essayé de détourner le Seigneur de sa vocation précise par les tentations du désert. Et il avait essayé de le pousser à employer sa puissance pour se délivrer. Tu as faim, mais si tu es le Fils de Dieu, change ces pierres en pain. Et le Seigneur n'a jamais employé sa toute puissance pour lui-même. Il n'a employé sa puissance que pour les autres. Mais quant à lui-même, pour ses délivrances, il ne s'attendait qu'à son Père. Et c'est après avoir refusé toutes les possibilités que mettait Satan devant lui, que le Père lui a envoyé les anges pour le nourrir. Et cela aussi est pour nous d'un grand enseignement. Au lieu d'essayer de nous en sortir par nous-mêmes, attendons-nous au Seigneur. Et si nous savons endurer l'épreuve avec patience, eh bien, nous sommes assurés que le Seigneur nous apportera la délivrance. En êtes-vous sûr ? C'est là la question. Ce matin, nous sommes devant le Seigneur. Et il voudrait mesurer notre foi. Qu'est-ce qui peut l'honorer ? Oh, que nous puissions lui dire, Seigneur, je crois, oui, c'est vrai. Je veux te faire confiance. Tu sais ce que je suis, tu me connais mieux que personne. Mais je m'abandonne à toi, je me livre à toi. Je te fais confiance. Tu peux transformer ma vie. Moi, je ne peux pas. Mais toi, tu peux, tu l'as dit. Alors, on croit sa parole. Mais regardez son visage. Il peut vous comprendre. Il a été défiguré. Son aspect différait de celui d'un fils des hommes. De même, alors, qu'est-ce qui va arriver ? Celui que l'on a vu là, crucifié sur la croix, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Quand ? Quand il reviendra. Devant lui, des rois fermeront leur bouche. Ah ! À ce moment-là, quand le Seigneur apparaîtra en gloire, ceux qui se sont moqués de la foi des croyants, ils auront la bouche fermée. Incrédules, ils fermeront leur bouche, car ils verront ce qui ne leur avait pas été raconté. Ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Et pour nous, mes bien-aimés, après nous avoir souligné que le Seigneur serait élevé dans une gloire aussi haute que son abaissement était grand, la parole s'adresse à nous. Qui a cru à ce qui nous était annoncé ? Qui a reconnu le bras de l'Éternel ? Voilà une question qui nous est posée et qui était posée aux Juifs. Et c'est très frappant, jusqu'au temps où Jésus est apparu et est venu, les Juifs croyaient que ce chapitre 53 d'Ésaïe annonçait le Messie. Mais quand les choses se sont passées, ils ont laissé de côté cette interprétation qui était la bonne, que Jésus était le Messie, qu'il devait souffrir, que le Messie devait souffrir, parce que justement on ne voulait pas que ça concorde. Alors on a commencé à dire dans le peuple d'Israël, et les scribes ont enseigné que c'était d'Israël qu'il était question et non pas du Messie. Mais jusqu'à la venue de Jésus, en Israël, on reconnaissait qu'Ésaïe 53 présentait la vie du Messie. Mais justement, on s'était fait tellement de lui une idée qui correspondait aux besoins de ce temps. Quel était le besoin des Juifs quand Jésus est apparu? Ils étaient sous le joug des Romains et ils savaient que l'Écriture parlait d'un Messie glorieux. Alors ils n'ont pris que les versets annonçant la venue du Messie glorieux et ils ont oublié ou ils n'ont pas voulu connaître les textes annonçant le Messie souffrant. Ils ont pris que les textes qui annonçaient la venue du lion de la tribu de Juda, qui établirait avec puissance et force son règne sur la terre. Mais ils ont oublié qu'avant cela, le Messie devait être, non pas un lion, mais quoi? Un agneau. Un agneau. L'agneau qui allait ôter les péchés du monde et qui allait remplacer tous les sacrifices de l'ancienne alliance par son seul sacrifice offert une fois pour toutes. Alors, la question pour nous, qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a cru hier ces paraboles? Qui a discerné qu'il y avait dans ces paraboles un sens prophétique et que nous ne pouvions pas négliger ce sens prophétique que Jésus a donné à ces paroles? Qui a reconnu le bras de l'Éternel, c'est-à-dire la force de l'Éternel? Verset 2, il s'est élevé devant lui comme un grand arbre. C'est la version révisée. Il s'est élevé devant lui comme une. Que ce soit le Seigneur qui vous donne des convictions et que vous ne partiez pas en disant « il nous a apporté ses idées », mais que vous puissiez, ou que vous lisiez dans la parole, retrouver la pensée de Dieu, non pas mes pensées. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Cette terre de Judée, cette terre si aride que vous trouvez tout autour de Bethléem. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Mais on nous a faussé avec toute l'imagerie religieuse, saint-sulpicienne, qui nous montre toujours un Jésus auréolé, hein, le doux Jésus, un Jésus mièvre. Ce n'est pas cela le visage de Jésus. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Voyez-le, même enfant, dans les rues de Nazareth. Il est parmi les autres enfants, joue aussi avec. On ne peut pas le distinguer d'une façon plus particulière qu'un autre. Il est le fils de Joseph et de Marie, comme on le disait. Puis il devient quoi? Fils de pauvre. Il ne peut pas aller faire ses études à Jérusalem. Il sera, tout comme son père putatif, il sera quoi? Charpentier. Alors, le charpentier. Et ce nom de charpentier le suivra partout. N'est-il pas le charpentier qu'il vient nous enseigner? Vous rendez-vous compte que, au fond, Jésus avait tout contre lui pour apporter la parole. Qu'est-ce qu'il prétendait? Lui qui n'était que charpentier et qui osait venir à Jérusalem et donner une leçon à ces grands maîtres de la loi, s'il n'a pas fait d'études? Qu'est-ce qu'il peut bien nous dire? Et Jésus restait humble. Il ne se fâchait pas. Il n'essayait pas de montrer sa puissance pour les convaincre, non. Là où il y avait l'incrédulité, qu'est-ce qu'il faisait? Des miracles? Non, il n'en faisait point. Il ne faisait point de miracles là où était l'incrédulité. Il n'essayait pas de convaincre les gens par des miracles. Or, aujourd'hui, vous avez toute cette tendance, dans les églises même. On veut, pour convaincre les âmes, qu'il y ait des miracles. Et on veut baser votre foi sur des miracles. Si on avait des dons miraculeux, eh bien, on aurait une puissance pour convertir les âmes. Eh bien, si même vous aviez ces dons miraculeux, et si le Seigneur nous les donne, nous y croyons à ces dons, hein, eh bien, nous ne les emploierions pas pour essayer de convaincre les incrédules. Parce que l'apôtre Paul a refusé, lui qui avait ses dons, de faire des miracles parce que les Juifs voulaient voir des miracles. Il a refusé, lui qui aurait pu montrer toute sa sagesse en citant les auteurs grecs et qu'il avait lu, il a refusé de montrer sa sagesse, son éloquence. Il s'est borné à prêcher Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Bien voilà qui pourrait nous encourager. Si vous sentez vos faiblesses, souvenez-vous de Jésus. Jésus humble, Jésus humilié, Jésus méprisé, abandonné des hommes, verset 3. Oh, pénétrez-vous de Jésus, pénétrez-vous de ce qu'il était, et demandons au Seigneur de nous dépouiller de tout ce désir qui vient de notre orgueil, où nous voudrions plaire au Seigneur, et nous voudrions, au fond, être des gens extraordinaires. Soyez ce que vous êtes, mais soyez-le dans le Seigneur. Soyez-le dans le Seigneur. Et n'essayez pas d'imiter, ne partez pas dans ces courants modernes, même que nous pouvons trouver dans nos milieux évangéliques. Souvenons-nous du Seigneur. Il n'a pas apparu ici-bas comme un grand homme. Il était humble. On détournait de lui le visage. Comme d'un lépreux. Hein. Le lépreux, il devait couvrir son visage ou détourner, ne pas montrer son visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Bien-aimé, quel cas faisons-nous de lui en ce 16 février 1986, 14 ans, comme nous le disons, avant l'an 2000. Que faisons-nous de lui, 14 ans avant l'an 2000? Quelle place a-t-il dans notre cœur? Quel cas faisons-nous de lui? Quelle place a-t-il dans notre vie? Alors prenons maintenant la strophe suivante à partir du verset 4. Celui qui n'a pas été reconnu, celui qui a été abandonné, délaissé. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Regardez de nouveau les évangiles. Voyez Jésus face à la souffrance. Qu'est-ce qu'il a dit? Il était ému de compassion. Il avait vraiment des entrailles sensibles. Il ne pouvait pas voir la souffrance des autres sans être ému. Quand il voyait une veuve pleurer son fils, ne pleure pas, et lui rendait son fils vivant. Quand il a vu Marie pleurer, lui aussi a pleuré avec elle. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Il n'avait pas à souffrir, il était saint et juste. Il n'avait pas à connaître la douleur. Et pourtant, il a connu la douleur à un tel point qu'on l'a appelé l'homme de douleur. L'homme de douleur. Habitué à la souffrance. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous, nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Nous avons été comme les amis de qui? De Job, hein? pour qu'il t'arrive une telle épreuve, c'est certainement qu'il y a quelque chose de caché dans ta vie. Voilà notre raisonnement. C'est le raisonnement des disciples quand ils voient l'aveugle né. Qui a péché? Celui-ci ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Nous sommes toujours enclins à chercher une cause chez les autres de leur misère. Eh bien non, ce n'était pas pour lui qu'il souffrait. Ce n'était pas pour lui qu'il était frappé et humilié, c'était pour nous. Verset 5, pour moi c'était un des textes de ma conversion il y a bien, bien des années. Mais il était blessé pour nos péchés. Il était brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix, littéralement le châtiment de notre paix, ce châtiment qui nous procure la paix, c'est lui qui l'a subi. Nous méritions le châtiment, mais il a été puni à notre place. Il est tombé sur lui. Et maintenant, qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que nous avons? Qu'avons-nous? La paix. Est-ce que vous l'avez? Est-ce que nous avons la paix? Sur quoi repose cette paix? Sur le châtiment que le Seigneur a subi. Elle n'est pas mort pour rien. Alors il voudrait que vous ayez la paix. Je vous donne la paix. Je vous laisse ma paix. Je ne vous donne pas, moi, comme le monde donne, je ne vous donne pas la paix pour la reprendre après. Je vous donne ma paix. Je vous laisse la paix. Justifiés sur le principe de la foi, nous avons la paix avec Dieu. Nous avons la paix avec Dieu. Et quand nous pouvons déposer toutes nos inquiétudes, tous nos fardeaux au pied du Seigneur, il est dit que la paix de Dieu qui surpasse, et ça, il faut que ça surpasse notre intelligence, parce que sans ça nous n'y croyons pas, qui surpasse toute intelligence, gardera nos cœurs qui s'agitaient et nos pensées qui se troublaient, tout cela seront gardés en Jésus-Christ, par la paix de Dieu. À celui qui est ferme dans ses sentiments, dit encore le prophète Ésaïe, tu assures la paix, la paix. Mais nous devons rester fixés en Jésus-Christ et nous souvenir sans cesse du châtiment qui nous donne la paix. La paix, je l'ai quand je pense à mon Sauveur. Il est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Que nous serons guéris? Non, que nous sommes guéris. Nous le sommes. Nous le sommes par les meurtrissures du Seigneur. Est-ce que nous le croyons? Verset 6, qu'est-ce que nous étions? Nous étions tous errants comme des brebis. Et c'est bien ce que Jésus voyait quand il était dans son ministère. Il était ému de compassion parce qu'il voyait les foules comme des brebis sans berger. Et les brebis sans berger, qu'est-ce qu'elles font? Elles s'égarent. Elle s'égare. Eh bien, lui a été le bon berger. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Est-ce que c'est pas cela que nous avons fait pendant des années, peut-être? Nous suivions notre propre voie, alors que nous aurions dû dépendre du Seigneur. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. C'est cela qu'il a porté. Alors, vos iniquités, elles sont là aussi, dans tous, l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Vous pouvez voir toute la vie du Seigneur, et spécialement la nuit où il a été livré. Il n'a pas ouvert la bouche devant ceux qui le jugeaient. Il est resté semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a pas ouvert la bouche. Il n'a pas voulu se défendre lui-même, ni devant Caïphe et Anne, ni devant les Romains, devant Pilate. Verset 8. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. le voici sur la croix, et là, il expie nos crimes, et voilà qu'il baisse la tête et meurt. Alors, parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? Eh bien, de son temps, il y en a qui ont cru, même celui qui présidait à la crucifixion, quand il a vu le Seigneur mourir, il a dit certainement, celui-là était fils de Dieu. Et nous, est-ce que nous avons vu le Seigneur mourir? Je demande à Dieu qu'il nous donne cette vision aujourd'hui, que nous puissions prendre conscience que si nous nous sommes sauvés, que si nous nous vivons, c'est parce que quelqu'un est mort pour nous. Laissons-nous pénétrer par ces paroles. Est-ce que vous avez déjà pensé que c'était pour vos péchés qu'il mourait? Pas seulement pour les péchés du peuple d'Israël. Verset 9, voyez ici, si vous ne croyez pas à l'inspiration de l'Écriture, après des textes pareils, on a mis son sépulcre parmi les méchants. Les corps des deux brigands devaient être jetés à la voirie. Le corps de Jésus devait prendre le même chemin. Il devait être jeté avec les corps des deux brigands. Eh bien, à ce moment-là, quand le Seigneur a expiré après avoir poussé un grand cri, qu'est-ce qu'on voit apparaître? Un homme riche qui s'appelait Joseph d'Arimathée, qui avait un sépulcre neuf et qui vient avec un linceul neuf pour ensevelir Jésus. On avait mis son sépulcre parmi les méchants, mais il a été avec le riche, littéralement il a été avec le riche dans sa mort. Son tombeau a été avec le riche. C'était le tombeau de qui? De Joseph d'Arimathée, duquel nous apprenons dans l'Évangile qu'il était un homme riche. Il n'avait fait aucune violence, il n'avait commis aucun crime, il n'y avait pas eu de fraude dans sa bouche. Et c'est tellement vrai que Jésus, avant son arrestation, pouvait regarder tous les Juifs qui l'entouraient et qui lui résistaient, et il devait leur dire, qui d'entre vous me convainc de péché? Est-ce que quelqu'un peut m'accuser de péché, d'un péché quelconque? Et les bouches restaient fermées. Il n'avait fait aucune violence. Il n'y avait point de fraude dans sa bouche. Et alors, dans les versets qui suivent, dans cette dernière strophe, eh bien, mes amis, on ne peut qu'adorer. Quand on lit maintenant, il n'y a pas eu que les hommes qui sont entrés dans cette crucifixion. Dieu n'est pas intervenu pour l'empêcher. Pourquoi? Pourquoi? Et c'est une de ces phrases qui nous dépasse. Il plut à l'Éternel de le meurtrir. Comment est-ce que Dieu a pu laisser se commettre un crime pareil, le seul saint, le seul juste? Pourquoi est-ce qu'il a plu à Dieu de le meurtrir? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas répondu à ce cri? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus reprenant le psaume 22e, où il était annoncé qu'on lui percerait les mains et les pieds. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il a plu à Dieu? Parce qu'il vous voulait, parce qu'il vous aimait, et que sans cela, vous auriez été perdus à jamais. Dieu vous a tellement aimé qu'il lui a plu de laisser souffrir son Fils pour que vous vous soyez sauvés. Et vous n'y croyez pas à l'amour de Dieu pour vous? Si Dieu vous a aimé au point de donner son propre Fils quand vous étiez pécheurs, quand nous étions des pécheurs, quand nous étions des impies, comment pouvez-vous douter que maintenant, que vous l'avez reçu, si vous l'avez reçu, il ne vous donnera pas aussi toutes choses avec lui. Comment pourriez-vous douter de l'amour de Dieu maintenant que vous appartenez à Dieu, que vous êtes devenu son enfant en acceptant son Fils bien-aimé? S'il vous a aimé à ce point, parce que c'est là qu'il est dit, Dieu constate l'amour qu'il a eu pour nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et si Christ est mort pour nous, c'est que Dieu l'a laissé mourir. Pour quelle raison? Il lui plaisait. Pour quelle raison qu'il lui plaisait? Parce qu'il lui plaisait de vous avoir, vous, avec son Fils, dans la gloire. Et il plaisait au Fils que le Père ait une famille et que le Père trouve enfin des adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. Est-ce que nous ne comprenons pas que tout ce chapitre d'Ésaïe 53 nous amène à l'adoration? Cela plaisait au Père, et le Fils savait que cela plaisait au Père. Alors dans une communion parfaite avec son Père, Jésus, au lieu d'exterminer ses ennemis, au lieu de descendre de la croix, il a consommé le sacrifice. Il est resté sur la croix. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité. Quelle est la postérité du Christ? C'est nous. Sa postérité, vous êtes la postérité du Seigneur. Alors, comprenons que nous sommes des gens d'en haut. Nous sommes la postérité du Seigneur. Nous sommes la famille de Dieu. Est-ce que cela ne nous dit rien? Est-ce que cela ne nous arrache pas à nous-mêmes, à nos propres circonstances, à nos difficultés? Est-ce que vous ne comprenez pas que votre âme était un trésor pour le Seigneur? Il a voulu acquérir ce trésor pour son Père. Est-ce que vous ne comprenez pas maintenant que vous êtes cette perle de grand prix? Il a donné sa vie pour pouvoir avoir cette perle dans le ciel, dans la gloire. Même si vous aviez d'autres pensées au sujet de la perle, que le Saint-Esprit lui-même vous amène à comprendre le prix d'une âme, le prix que vous avez pour le Seigneur. Vous êtes la perle. C'est quelque chose. Il verra une postérité. Il prolongera ses jours. En qui est-ce qu'il prolonge ses jours? En nos propres vies. En vos vies, le Seigneur vit. Alors il prolonge ses jours. Il prolonge ses jours sur la terre, dans votre propre vie. Alors, soyons de ces hommes et de ces femmes habités par le Seigneur. Laissons le Seigneur prolonger ses jours en nous. Mais évidemment, nos jours ne seront plus les mêmes qu'autrefois. Le Seigneur, hélas, ne prolonge pas ses jours dans tous ceux qui sont baptisés. Il prolonge ses jours en ceux qui l'ont vraiment reçu, en ceux qui lui donnent la première place. Alors, un de vos jours peut être un jour du Seigneur. C'est fantastique. Un de vos jours peut devenir un jour du Seigneur. Il n'y a pas que le dimanche. Offrons donc par lui sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, le fruit des lèvres qui confesse son nom. Il verra une postérité et il prolongera ses jours. L'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Entre ses mains. Soyons entre ses mains et laissons l'œuvre de l'Éternel prospérer par le Seigneur en nous. Verset 11. À cause du travail de son âme, il rassasira ses regards. Où il est dit, il goûtera un jour le fruit du travail de son âme. Son âme qu'il a donnée va produire ce fruit en vous. Oh, qu'il puisse rassasier ses regards en voyant les âmes rachetées, les âmes sauvées, les âmes qui le suivent dans le chemin. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Il était dit que le Seigneur, par la connaissance qu'il donne de ce qu'il a fait, eh bien, justifiera plusieurs, beaucoup d'hommes. Et nous sommes de ceux, si nous l'avons reçu, qui avons été justifiés par la connaissance du Seigneur. Est-ce que nous connaissons le Seigneur? De la vraie connaissance, qui est une relation, une identification, une union. Il se chargera de leurs iniquités. C'est un message que nous pouvons donner autour de nous. Le Seigneur se charge de vos iniquités. Ce n'est pas à vous qui pouvez vous en débarrasser. Lui s'en est chargé. Et alors, le dernier verset, c'est pourquoi je lui donnerai une part, sa part avec les grands. Oui, on l'a vu au début, dans la première strophe. Je lui donnerai une part avec les grands. Il l'élèvera, comme il l'est dit dans Philippiens 2. Dieu lui donne un nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus se ploie tout genou des êtres célestes, terrestres, infernaux, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Oui, c'est pourquoi il lui donnera sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants. Et puis là, on a pu voir comme un résumé des quatre évangiles. Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. C'est l'évangile de Jean, où il est dit au chapitre 10, « À cause de ceci, le Père m'aime, c'est que je donne ma vie pour mes brebis. Je la donne de moi-même, personne ne me l'ôte. Je la donne. » C'est tout l'évangile de Jean. Jésus a donné sa vie. Il a livré lui-même son âme à la mort. Il s'est livré lui-même. Il a livré son âme littéralement à la mort. Et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. On a cette citation dans Marc, au chapitre 15, au verset 28e. Il a été compté parmi les iniques. Il a été compté comme un malfaiteur, puisqu'on a crucifié à ses côtés deux brigands. Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes. C'est tout l'évangile de Matthieu, 26, verset 28. Il a porter les péchés de beaucoup d'hommes. Quels sont ces hommes? Il a porté les péchés du monde entier. Mais les hommes qui peuvent dire « il a porté mes péchés », ce sont ceux qui ont cru. Et puis, finalement, il a intercédé pour les coupables. C'est l'évangile de Luc. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Il a intercédé pour les coupables, et non seulement cela, il intercède encore pour nous auprès de Dieu. Alors voilà, celui qui était les trois mesures de farine. Sur son corps, il a pris nos péchés, comme le dit l'apôtre Pierre. Il a porté nos péchés en son corps sur le bois. Il a livré son âme à la mort, son âme si sainte, si juste. Alors il a pu dire, ayant tout accompli, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Esprit, âme et corps. Tout au Père. Tout pour la gloire du Père. Que nous puissions à notre tour, dans ce culte d'adoration qui doit converger vers la suprême action de grâce, la Sainte Cène, appelée originellement Eucharistie, mais hélas, nous savons ce qu'on a fait de ce mot, mais nous voulons retrouver le sens profond de ces paroles. Et c'est pourquoi, avant de participer à ce repas qui est fait pour les siens, pour pouvoir avoir part à la table du Seigneur, il faut être des siens. Il faut avoir prononcé son oui, un oui total, un oui définitif. Alors, avant de nous approcher, répondant à son invitation, faites ceci en mémoire de moi. Nous voulons nous abîmer dans cette mémoire et le laisser nous conduire dans cette heure d'adoration qui a été introduite par ce chapitre 53 d'Ésaïe. Comprends-tu ce que tu lis? De qui parle le prophète? De lui-même ou de quelqu'un d'autre? Et commençant par cette parole, Philippe lui annonça Jésus.